24 février 2012. Bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous tout au long de l'émission et je suis accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Cette semaine, on discute art verrier avec Carole Charette, qui est commissaire de l'exposition à savoir rétrospective sur François Oudé, Mémoire vive, qui est présentée à la galerie Materia. Ensuite, on va rencontrer Dominique Savoie, notre chroniqueur. Ça va être sa première chronique de l'année, donc on l'attendait avec impatience. Elle va nous parler des expositions qu'il y a au centre-vue, celle de Georgia Volpé et de Catherine Bonnemère. Et je crois qu'elle va nous faire aussi un petit clin d'œil sur l'exposition de Marie-André Gilbert à la bibliothèque Saint-Charles-Garnier. Également, dans environ une dizaine de minutes, on discute avec Lisanne Nadeau, directrice de la Galerie des arts visuels de l'Université Laval, et Frédéric Hamelin, étudiante en art, pour parler de l'exposition Bas d'essai qui regroupe le travail de 4 étudiantes en art visuel. Également, Raymond Poirier nous fait sa revue de presse. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Comment vas-tu?
Ça va bien, mais ça va un peu moins bien pour le milieu des arts international. Beaucoup de décès cette semaine, on va en parler tout à l'heure.
Ce sont des tristes nouvelles, mais en attendant, on se remonte à Montréal avec Simon Roy. Bonjour Simon.
Bonjour Julie.
Tu nous as fait une belle sélection cette semaine.
Ben oui, c'est un artiste assez intriguant parce que j'ai absolument aucune information sur l'artiste. Il s'appelle Apollon. Il vient de l'Angleterre. C'est à peu près tout ce que je sais de lui. C'est son album Nox. Vraiment intéressant. J'ai été charmé par cet album-là. C'est publié sur Voz Music, une étiquette aussi vraiment vraiment intéressante. C'est un type du nom de Siren Deer qui a cette étiquette-là. Puis, il évoluait dans le monde underground des cassettes dans les années 90, donc un peu avant Internet. Donc, c'est une étiquette vraiment intéressante, beaucoup de matériel vraiment intéressant si vous aimez la musique expérimentale. Donc, c'est ça, cette semaine, ben, moi, je m'attarde sur l'album Nox d'Apollon. C'est un drôle de mélange. Donc, c'est de l'art audio. Il mélange des rythmes de musique du monde avec un peu de field recording. Il brasse ça un peu avec de l'électronique. Ça donne une ambiance vraiment spéciale. C'est pas un album qui se prête très bien aux extraits comme on fait à l'aérospatiale.
Oh, okay.
Donc, il faut écouter d'un bout à l'autre pour, je crois, un peu comprendre qu'est-ce qui se passe.
Ça tombe bien puisqu'il sera disponible, les liens seront disponibles pour le télécharger gratuitement, je crois?
C'est ça, exactement. Sur le site de l'aérospatiale, Raymond a déjà posté l'information, donc vous pouvez télécharger tout de suite.
Bien, Simon Roy, merci beaucoup.
Merci.
Puis on t'écoute dimanche à compter de 20h, hein?
Oui, exactement.
C'est bon, je ne me rappelle jamais l'heure, Simon. C'est pour ça l'hésitation en onde à chaque fois. Donc, pour Web Music. Donc, on te souhaite une excellente semaine.
Merci.
Puis, on s'en va en pause tout de suite. On écoute Bread and Salt sur les ondes de CKRL. Alors, on vient d'entendre Bread and Salt, un extrait de l'album Nox de l'anglais Apollon. C'est disponible sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, si ça vous tente de devenir ami Facebook et aimer la page de l'aérospatiale, on met des nouvelles assez régulièrement sur ce réseau social. Et Raymond, je suis hésitante, alors je préfère te laisser parler pour la suite des choses.
Oui, en fait, Julie, comme je le disais d'entrée de jeu, plusieurs tristes nouvelles cette semaine, plusieurs décès qui ont marqué le milieu des arts visuels international, notamment, je commence par lui, Anthony Tapies, donc figure marquante de l'art dans la deuxième partie du 20e siècle. Ça a beaucoup, beaucoup fait parler, beaucoup de rétrospectives d'un média à l'autre. J'ai essayé de parcourir les différentes rétrospectives et celles que je proposerais via le site de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com. C'est un article de 20minutes.fr qui résume pourquoi Anthony Tapies a révolutionné la peinture. Et c'est suite à plusieurs entrevues avec des spécialistes des arts, donc on réussit à synthétiser un peu les raisons qui font que cette personne-là était marquante. Parmi les éléments mentionnés, on mentionne, entre autres, qu'il a renoncé aux matériaux traditionnels de la peinture. Il a inventé une matière qui n'appartient qu'à lui, qui est une poudre de marbre agglomérée avec de la colle et 36 autres choses. Tapies qui a introduit dans la peinture des éléments multiples qui allaient de la paille au vieux drap. Tout était mélangé et de ça, il avait dit, j'ouvre les guillemets, « L'artiste doit tout réinventer, il doit se lancer à corps perdu dans l'inconnu, rejetant tout préjugé, y compris l'étude des techniques et l'emploi des matériaux considérés comme traditionnel. » Également, dans les éléments qui sont soulignés, on parle du retour du réel dans la peinture, donc ce serait un des précurseurs là, du mouvement pop art, retour du réel à l'intérieur des toiles, à l'intérieur de la peinture, Tapies qui mettait sur ses toiles une prise en charge complète de l'existence. On parle d'une œuvre métaphysique et politique également, donc de manière générale, un artiste qui est incontournable s'est avalisé depuis longtemps et il est maintenant donc disparu à l'âge de 88 ans.
Alors, triste nouvelle, il y en a encore une autre.
Hein? Deux autres. Deuxième personne dont le décès est souligné cette semaine, c'est la peintre surréaliste et l'écrivaine américaine Dorothea Fanning, qui a été l'épouse du peintre allemand Max Ernst, qui est morte, elle, la semaine dernière, à l'âge de 101 ans quand même. Fanning a souligné qu'il ne fut jamais une imitatrice du travail de son mari. La force de son imaginaire, sa lucidité maniaque ont assuré à son œuvre une reconnaissance pleine et entière. Une de ses toiles les plus célèbres, un autoportrait de 1942 intitulé Birthday, est aujourd'hui propriété du Philadelphia Museum of Art. Elle fait des installations également qu'on dit déstabilisantes. On trouve ses œuvres dans différents centres importants comme la Tate Gallery ou le centre Georges Pompidou. Alors, elle a été productive jusqu'à la fin, d'ailleurs, nous dit-on.
J'imagine qu'elle s'est éteinte de sa belle mort à 101 ans.
Oui, effectivement.
Elle doit avoir trouvé la paix.
Troisième décès, un peu plus jeune, on parle de 57 ans. Cette fois-ci, on ne sait pas encore d'ailleurs les causes de la mort. On évoque un possible suicide. Il s'agit ici de l'artiste plasticien et musicien américain Mike Kelly, réputé entre autres pour ses installations vidéo. Le conservateur du Musée d'art contemporain de Los Angeles, Peter Schminel, disait de lui que sans Mike Kelly, Los Angeles ne serait pas devenu un foyer international de l'art contemporain. Donc, il a été majeur là-dedans. Il dit que de tous les artistes des années 80, Kelly est celui qui est vraiment sorti du lot, qui a créé une nouvelle et complexe identité pour sa génération. Alors vraiment, donc, un travail à découvrir, si ce n'est déjà fait. Là. Des installations réalisées, des vidéos réalisées à partir d'objets de récupération, des poupées, des textiles usés, etc. Alors, ben voilà. Donc, adieu donc à Mike Kelly, à Dorothea Fanning et à Anthony Tapies.
Et j'imagine qu'on aura des nouvelles éventuellement sur les causes de la mort de Mike Kelly.
Exactement. Peut-être des nouvelles un peu plus joyeuses pour terminer.
Oui, ce serait plaisant. Hein?
Un petit record. On parle d'argent de temps à autre. On aime ça suivre le marché de l'art. Et dans ce cas-ci, c'est que cette semaine, il y a un record qui a été battu. Le tableau Les joueurs de cartes qui devrait rejoindre le nouveau musée d'art national moderne de Doha qui devrait ouvrir en 2014.
On parle bien de celui de Cézanne.
Et c'est devenu également le tableau le plus cher du monde.
Ah ouais?
Alors, en fait, le Qatar aurait acheté ce tableau-là pour 250 millions de dollars.
Le Qatar, le pays.
Le pays. Le Qatar l'a acheté pour son musée.
C'est un petit peu particulier. On s'attend à ce que ça soit, je ne sais pas, au musée d'Orsay.
Disons qu'eux autres, ils ont quand même beaucoup de moyens. Ils ont dans ces coins-là. Et en fait, pour ce tableau-là, peint en 1895, a été cédé en 2011 par les héritiers de l'armateur grec Georges Anbirikos à la famille royale donc du Qatar. Et ça va se retrouver, comme je le disais, dans ce musée. Et donc, ça montre encore, et d'ailleurs, je suis tombé sur quelques analyses qui disent que, de manière générale, le marché secondaire international, ça roule assez bien. Il ne connaît pas de crise.
Ah ouais.
Et on en voit quand même, il y a des gens qui ont les moyens, des États qui ont les moyens de dépenser 250 millions de dollars pour acheter cette toile, donc quand même. Et en terminant, tu as des petites nouvelles de Québec à l'invitation de Jorge Elisieri Rodriguez Osorio, directeur du département des arts de la Faculté des arts et humanités de l'Université de Caldas en Colombie. Engramme, donc la galerie Engramme, en étroite collaboration avec l'artiste commissaire Madeleine Sanson, a été sollicitée pour présenter une exposition collective orientée sur la pratique du livre d'artiste dans l'art imprimé. Alors, on parle d'un échange culturel, donc amener des artistes d'Engramme à exposer en Colombie. Il s'agit de Soucard, de Diane Fournier, de Madeleine Sanson, de Diane Notio et de Lise Vézina. Alors ben voilà, on retrouve cette information-là via un réseau Art Actuel. Et évidemment, tous les liens, si vous voulez en savoir un peu plus que les bribes que je vous donne dans cette chronique, eh bien, c'est l'aérospatiale.wordpress.com.
Raymond Parier, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On écoute vendredi dès 17h30.
Oui, à la vie en BD spéciale Angoulême 2012. On lui consacre toute l'heure.
On l'attendait avec impatience, ce spécial-là, je pense. Hein?
Oui, mais c'est le plus gros festival international en BD, alors c'est un peu incontournable.
Voilà, donc vendredi dès 17h30, de notre côté, on s'en va. En pause aujourd'hui, on écoute Along the Circumspect sur les ondes de CKRL. D'entendre un extrait de l'album Nox de l'artiste anglais Apollon. Vous pouvez trouver les informations et les liens aussi pour le téléchargement sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. C'était une suggestion de Simon Roy. Et maintenant, on tourne notre regard vers la relève, en fait, en art visuel, vers les étudiantes. Plus précisément, en art visuel, on va discuter avec Frédéric Hamelin. Bonjour.
Bonjour.
Et avec Lisanne Nadeau, qui est directrice de la Galerie des arts visuels. Bonjour.
Bonjour, Julie.
Ça va bien?
Oui.
Cette année, c'est la 7e édition de Bas Bessier.
Déjà.
Quand même, hein? Les artistes ou les œuvres sont sélectionnés par jury, hein, quand vous décidez là, de qui va exposer.
Ouais, à chaque mois de janvier, comme tu sais, on réserve un espace dans notre programmation à la Galerie des arts visuels. Puis on tente de donner notre maximum à des jeunes artistes en deuxième année du bac en arts visuels et médiatiques. Moi, ça m'épate toujours le professionnalisme de ces étudiants-là, de ces étudiantes-là. Donc, par jury, ils sont sélectionnés. Cette année, il y a 4 artistes, femmes,
okay,
qui ont été sélectionnés. Et puis, c'est une très belle mouture. Je suis super contente de cette exposition-là.
D'ailleurs, Frédéric Hamelin, tu fais partie des personnes qui ont été sélectionnées. Tu nous proposes une installation, hein, c'est bien ça?
En fait, j'ai exposé une installation et une pseudo-archive vidéo d'une performance que j'ai faite lors du vernissage.
OK, c'est ça, parce que là, t'as installé, il y a des bouts de bois, des languettes de bois cassées par terre, des téléviseurs, une lumière. Peux-tu nous parler un peu de ta performance et qui pourrait nous donner une idée? Parce que j'imagine que tout ça est en lien.
En fait, la performance est présentée vraiment en dehors de l'installation que je présentais pour Banc d'essai.
OK.
L'installation que je présente pour Banc d'essai, c'est une archive d'une action, en fait. J'aime beaucoup travailler sur l'action, le passé de l'action et le présent de la non-action, disons. Donc, je cassais des bouts de bois sur une enclume et je le filmais. Puis finalement, l'installation, c'est juste de présenter l'action en vidéo par rapport aux bouts de bois qui sont cassés et qui sont cassés à jamais, disons. La performance que j'ai présentée lors du vernissage, c'était une performance culinaire, disons. Je travaille beaucoup avec
les gars de la cuisine.
Je travaille toujours beaucoup en performance avec des aliments.
Okay.
Différents aliments. Fait que là, c'était une brique de beurre et de la farine. Et pour l'archive que j'ai présentée, en fait, je voulais pas présenter une archive directement de la performance, ce que je trouve un peu déplacé. Donc, j'ai décidé de proposer un projet complètement, pas complètement, mais différent de la performance. Et justement, de garder un petit quelque chose de précieux à la performance en cachant certaines parties de la performance.
C'est pour ça qu'il y a des téléviseurs, là, qu'on a l'impression qu'il y a de la poussière. Dans le fond, c'est de la farine.
Exactement, c'est les traces de la performance. Puis en fait, dans le téléviseur de l'archive, on voit seulement mes pieds.
Oui, c'est ça.
Donc, on manque un peu le gros de la performance, disons. Mais c'est ce que je trouve intéressant, justement, de cacher le précieux de la performance puis de finalement présenter le résultat qui est la farine et le beurre qui tombent à mes pieds.
Puis, dans le fond, il y a quand même l'idée d'une narration là, dans ton travail, mais une narration qui est comme interrompue, qui nous oblige un peu à faire le chemin aussi là, dans notre tête. Là.
Oui, exactement. Puis aussi à me mettre un peu dans mes souliers, puisque l'installation est présentée sur le sol directement face au spectateur.
Ben oui.
Donc, c'est un peu un effet miroir. Puis, disons que les actions présentées ont l'air quand même assez intéressantes à faire, du genre jouer avec du beurre avec les pieds. C'est quand même une action qui a l'air assez agréable à faire. Donc, c'est vraiment de mettre le spectateur dans mes petits souliers. Lors de la performance.
Puis là, je parlais de narration pour le travail de Frédéric. Je pense, Lisanne, c'est quelque chose qui semblait assez récurrent là, dans le travail des artistes.
Tu sais, Julie, c'est pas un projet de commissariat avec une thématique, une question d'art, mais le résultat est très cohérent. J'en suis parvenue lorsqu'on a fait la sélection des quatre. Je disais à mon comité, mon Dieu, il y a une complicité, c'est incroyable. C'est toutes des filles qui travaillent avec le presque rien, le non-dit, l'indicible. Il y a quelque chose de très contemplatif. Il y a quelque chose de c'est pas bavard, grandiloquent, extraverti. Ça nous incite vraiment à prendre le temps, contempler. Chacune des quatre est tout à fait différente. Bon, on vient d'entendre Frédéric, mais on a Andréane Gobeil, qui, elle, c'est du dessin, donc c'est vraiment très, très, très loin de la performance. Mais dans leur sensibilité, très, très à fleur de peau, la façon qu'elle nous entraîne très, très subtilement.
La subtilité. Oui,
la subtilité. Oui. Donc, c'est l'exposition est finalement témoin là, d'une belle complicité entre ces quatre filles. Là.
Est-ce que vous vous connaissez bien? Êtes-vous amies?
Pas amies, je dirais, mais de connaissances. Il y avait seulement une fille que je ne connaissais pas et que j'ai eu le plaisir de rencontrer.
OK. C'est bon, je me disais, des fois qu'on est amis, on va dans des directions qui peuvent s'apparenter. Mais peut-être j'aimerais ça parler en fait de Josiane Roberge qui travaille le son et la vibration.
Oui.
Et l'effet du son et de la vibration sur l'image. Peux-tu, Lisanne, je pense comment elle fonctionne?
Oui, je pense, Julie, que c'est important aussi de mentionner que Josiane, elle a une expérience télévisuelle en production, en études, tout ça. Elle s'intéresse aux films d'animation. Elle retourne aux études. Elle veut vraiment se concentrer à la recherche de l'image en mouvement. Puis ce projet-là, les gens qui nous écoutent, faut un petit peu aider à visualiser.
Bon,
il s'agit d'une projection où on a des cinq formes rondes dans lesquelles on a des matières.
Liquide, puis
liquide, des pigments. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Bon, parfois, ça peut être du lait. Parfois, bon, on donnera pas toutes les cues, là. Mais... Et il y a une bande sonore où on a vraiment accentué les basses. Donc, il vient vraiment nous chercher physiquement. On sent la résonance.
Ouais,
et à chaque fois qu'il y a un son profond, la matière s'active. Donc, à l'origine, c'était un projet en sculpture, sculpture-installation.
OK.
Qui a été transformé dans un projet vidéo, un petit peu comme Frédéric parlait tout à l'heure. À un moment donné, l'archive devient une œuvre, on transforme, on sublime la simple archive et ça devient un autre projet.
Ouais.
Donc, d'une installation où on avait carrément deux bassins avec des liquides qui réagissaient au son, Josiane est passée à une œuvre vidéo, donc c'est une projection. Puis les cercles, comme des oculis, cinq oculis, un à côté de l'autre, qui sont en mouvement. Certains m'ont dit « Ah, on dirait des vues microscopiques », d'autres m'ont dit « On dirait des planètes, on voyage », c'est comme des paysages étranges. Mais tu as vu, hein,
j'ai vu, en fait, mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la beauté des formes puis des motifs que ça fait, tu sais, ça nous...
Des couleurs très profondes.
C'est tellement quotidien, finalement, là, les liquides ou les poudres ou tout ça, puis la musique aussi, mais de voir cette interaction-là, puis de l'avoir quand même assez gros,
c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, ça devient vraiment une expérience, pas juste du regard, une expérience de tout le corps à cause du son qui nous enveloppe, là. C'est un beau projet de Josiane, ça, ouais.
Puis, si tu parles plus un peu des autres, il y a Camille Rajotte, elle, qui travaille sur la question du paysage, un paysage urbain assez ambigu.
Oui, tu as raison, c'est très, très, très urbain. En fait, Camille, elle travaille beaucoup, beaucoup la sculpture. Elle se promène en ville, elle trouve des objets étranges avec des structures mais souvent des objets très, très, très abstraits. Parallèlement à ça, elle s'intéresse à la photo. Puis je pense qu'elle a réussi à concilier les deux. Donc, c'est un socle avec une pièce de béton, des petits éléments de métal qui joue avec une image projetée sur le mur.
On voit le même objet, en fait.
Oui, puis on se demande, est-ce que c'est une image en mouvement? Est-ce que c'est une photo? L'image est très, très abstraite, mais plus on la regarde, plus on réalise que c'est un paysage urbain. Et c'est un espace toujours restreint.
Oui, c'est ça. On ne trouve pas l'échelle non plus.
On ne trouve pas l'échelle.
Parce que même ici, au premier plan, on voit le même objet qui est dans la galerie.
Ouais.
On est trop près de cet objet-là pour comprendre est-ce que moi, j'y tiendrais si j'étais là, dans quelle posture je serais.
Ouais. C'est un beau projet. Puis, bon, parallèlement à l'œuvre, Camille est à Marseille, Josiane aussi, Marianne aussi. Trois des filles sont parties. D'ailleurs, c'est possible qu'elles nous écoutent, donc on les salue dans le cadre d'un échange entre l'École des arts visuels et l'École des beaux-arts de Marseille et puis une université aussi à Saint-Étienne. Donc, c'est aussi des filles qui veulent, qui sont engagées. Bon, comme Frédéric qui est avec nous ce soir, c'est des étudiantes qui s'impliquent, qui réalisent des événements. Frédéric est très impliqué dans l'organisation d'événements en performance, tout ça. Donc, c'est vraiment un bonheur pour moi de comme être la coach de quatre filles assez extraordinaires et de dire, bon, mais on vous donne une tape dans le dos et on vous dit, hey, c'est génial ce que vous faites, c'est pertinent, continuez. Donc, bande d'essai, c'est toujours pour moi un plaisir parce que c'est plein d'émotions. Ah, les ânes, c'est le fun, ça marche, je suis contente. Bon, il y a beaucoup de spontanéité. Puis
dis-moi, Frédéric, toi, c'est ta première exposition comme ça dans un cadre professionnel?
Oui, exactement.
Comment t'as appris la nouvelle que tu étais sélectionnée? Tu sais, j'imagine que tu dois être vraiment contente.
J'étais très, très, très contente. J'étais très impressionnée qu'on m'ait choisie parce que, personnellement, le portfolio que j'ai présenté n'était peut-être pas à la hauteur de
ce que j'aurais voulu.
Oui, exactement. Mais donc, j'étais très contente de voir mon dossier choisi et l'expérience, juste de la préparation au montage, a été vraiment intéressante. Le montage a été intéressant et après ça, le vernissage et tout ce qui arrive maintenant, c'est vraiment impressionnant et un peu déstabilisant aussi. Mais non, je trouve ça très, 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 très enrichissant comme expérience.
Puis qu'est-ce que tu penses de l'ensemble de l'exposition? Comment ton œuvre, ton installation réagit? Oups, pardon, j'ai accroché ton micro. Et comment ton œuvre réagit vis-à-vis des autres?
Bien, personnellement, je trouve que l'exposition est intéressante parce que tout est assez épuré. Il y a beaucoup d'espace libre, donc on peut beaucoup circuler à travers les œuvres. Je trouve que chaque œuvre a chacun un petit espace. Et personnellement, j'étais quand même très contente d'avoir la place du centre entre les deux colonnes. J'ai trouvé ça très gentil de l'avoir de Lisanne, de me proposer de m'installer là. Puis justement, je trouve que ça donne vraiment un espace pour chacun, vraiment un environnement pour chaque œuvre qui est propice à
ce qu'elle soit la mieux appréciée.
Oui, exactement. Puis je trouve que
Lisanne
a fait un très bon travail justement à trouver l'espace idéal pour chacune des œuvres. Je l'ai vu se casser la tête, mais ça a valu la peine.
Mais toi aussi, tu t'es cassé la tête, Frédéric, parce que tout le long du montage, c'était assez génial de travailler avec Frédéric, parce que on était là, bon, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, est-ce qu'on met ça à droite, est-ce qu'on met ça à gauche, puis là, bon, là, je disais, Frédéric, prends ta place, regarde, profite de l'occasion qui t'est donnée. Puis, c'était un échange extraordinaire avec elle. Je pense que c'est la tribu des grands artistes de se poser constamment des questions. Frédéric, elle se pose des questions, mais elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Il y a comme un équilibre.
La bonne part entre le doute et la confiance.
Exactement, exactement. Puis, on est très, très fiers de présenter son travail.
Mm. Puis, Pat, juste un petit commentaire comme ça. Vous deviez être content, tu disais au début, c'est pas un travail de commissariat, donc il n'y a pas toute la réflexion de qui on met ensemble, puis qu'est-ce qu'on va avoir aussi comme réflexion au-delà, mais ça doit être plaisant de voir cette cohérence-là aussi dans l'exposition, parce que des fois, des univers différents peuvent moins bien s'harmoniser.
Je pense qu'on réussit toujours au niveau du montage. Bon, par exemple, l'année dernière, on avait des artistes qui étaient très, très différents, puis on avait réussi quand même au niveau du montage à faire en sorte que le passage était... coulant, agréable, tout ça. Cette année, il y a une plus grande complicité. Est-ce que c'est le fruit du hasard ou est-ce que c'est parce qu'il y a comme un courant de sensibilité qui s'affirme, qui permet qu'on permet finalement, je ne sais pas, je me pose la question. C'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être pas un hasard. Puis il y a des... Je trouve ça assez touchant chez des jeunes d'une vingtaine d'années d'avoir ce type de sensibilité très épurée. On dit souvent, les jeunes sont plus capables de se concentrer. On est toute une génération. Ouais. Bon, même moi, écoute, avec tous les médias sociaux et tout ça. Mais non, il y a encore place à cette sensibilité du presque rien, à ce rapport contemplatif aux œuvres. C'est très rassurant, quelque part. Je pense que c'est une exposition qui incite à prendre le temps, puis à être touché d'une manière subtile mais efficace.
Et peut-être, Lisanne, en terminant, qu'est-ce qui s'en vient, là, la prochaine exposition? Parce que bande d'essai se termine le 19 février.
Déjà, on pense à autre chose, c'est Mathieu Vallade, dont j'aime beaucoup le travail, qui s'en vient. Et puis, mars-avril, on a un collectif de Mexicains, un centre en nouvelles technologies. Puis ensuite, c'est la manif d'art, puis là, on ne sait pas c'est quoi.
On attend le dévoilement.
Je peux pas vous dire, c'est un secret.
C'est toujours l'impatience là, qui mène à la manif d'art.
Oui, oui.
Ben, Frédéric Hamelin, merci beaucoup.
Ben, merci à toi.
Ta bonne continuité et bon succès dans tes études. Lisanne, merci beaucoup.
Merci à toi, Julie.
Puis, l'invitation est lancée. Bande essai se poursuit jusqu'au 19 février. C'est présenté à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. De notre côté, on s'en va en pause. Au retour, on discute avec Dominique Savoie.
Vous êtes gestionnaire, travailleur autonome ou employé et désirez vous perfectionner? Michel Couture, formation et consultation incorporée, offre des formations dans la région de Québec dans différents domaines. Gestion du capital humain, service à la clientèle, vente et approvisionnement, communication, performance organisationnelle. Informez-vous également sur les formations en entreprise sur mesure et sur le coaching privé ou semi-privé. Pour connaître l'horaire des formations, mcformcoach.com. Contactez votre centre local d'emploi afin de savoir si vous êtes éligible à une subvention. mcformcoach.com.
Programmation, écoute en direct, actualité, palmarès musical, téléchargement, clavardage et plus encore. CKRL.qc.ca. Toute l'information que vous recherchez sur votre station. CKRL.qc.ca. Cultivez vos goûts grâce au 89.1.
Les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Joubel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts.
CKRL. 89.1.
Pourquoi tout le monde m'écoute? Parce que je veux des marques de ceux qui brillent, moi qui parlent, mais qui disent rien, des bagues, puis des billets de dans ma lettre trash talk.
Québec. Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418 529 3829.
Il est 18h, on entame la dernière demi-heure de l'aérospatiale. Julie Gagné toujours avec vous, accompagnée bien entendu de Jacques Gignac à la mise en onde. Et c'est aujourd'hui, on accueille pour la première fois de l'année Dominique Savoie avec nous. Bonjour Dominique.
Salut, je n'avais pas catché que c'était la première fois de l'année.
Oui, c'est la première fois, j'ai peur, tu me regardais avec un air un peu sourd.
Je me demandais ce que tu allais dire.
Là, j'ai eu peur, je me suis dit, est-ce qu'elle est venue et que j'ai eu un moment de perte de mémoire? Ça va bien?
Ça va très bien.
Tu es allée faire un tour, là. Tu t'es promenée à Méduse, à la bibliothèque?
Oui, bien en fait, cette fois-ci, je vous parle de Vue, du centre Vue. Pour encore une semaine, jusqu'au 12 février, le centre Vue propose deux expositions. Dans la grande salle, Georgia Volpe, puis dans la petite salle, Catherine Bonnemère. Oui, j'ai toujours tendance à la débaptiser. Donc, deux expositions assez différentes. Donc, la première exposition, donc Georgia Volpe, qui est déjà beaucoup connue pour son travail assez, disons, varié, qui travaille toujours un peu l'idée de la mémoire personnelle, la mémoire collective, les souvenirs, son passé, ses racines.
La relation avec les gens également.
Exactement. Donc, puis elle travaille beaucoup justement avec les gens pour une espèce de justement d'interaction commune pour créer quelque chose de nouveau. Cette fois-ci, elle nous propose une exposition installative, un peu, disons, du moins avec une espèce de grande structure qui se retrouve au centre de la salle. Une structure qui, pour moi, en tout cas, ça me semblait être une espèce de dentelle, racine, labyrinthe. C'est assez beau.
Le corps des nerfs ou le système sanguin. Là.
Exactement. Donc, c'est vraiment un système de ramification qui fait très beau. L'idée, un peu, comme si c'était un lustre qui trône dans cette grande salle-là. Puis, quand on s'approche, dans le fond, on voit que c'est tout des coupures dans du papier photo. Certaines parties sont carrément des photographies qui ont été, en fait, découpées. D'autres, c'est seulement le papier, le matériau en tant que tel. Le tout, en fait, avec des systèmes lumineux donc qui créent un espèce de jeu d'ombre sur le plancher, sur les murs, dépendamment à quelle heure du jour on se pointe dans les lieux. Puis, le reste de la salle, sur les murs, finalement, des sortes de cellules, formes plutôt, en fait, inusitées pour une exposition de photos qui, au début, me semblait, c'est quand même assez spécial, original. Puis, finalement, ça, c'est très intéressant et ça fonctionne très bien.
C'est cohérent, c'est ça?
Absolument, avec le contenu. Donc, des espèces de parcelles de souvenirs, de mémoires,
un bout de lit,
exactement, surtout des lieux, beaucoup de lieux, beaucoup de vieux objets qui évoquent, qui me semblait évoquer une sorte de souvenir peut-être de l'artiste, d'endroits qu'elle a connus.
Ben oui, en fait, ce sont des maisons où elle a habité puis il y a des photographies des gens qui ont habité aussi.
Exactement,
ces maisons-là.
Exactement, donc avec, c'est ça, les textures, comme c'est des très gros plans de détails, donc les textures sont intéressantes, les motifs, la peinture, la tapisserie, des images de vieilles tapisseries vraiment intéressantes. Donc le tout, on se promène là-dedans et puis on a l'impression de rentrer effectivement dans l'univers de Georgia. C'est très intéressant, très beau. Puis ça vaut la peine, en fait. Au début, c'est déstabilisant, mais finalement, ça vaut vraiment la peine. On apprivoise et on apprécie.
Ce qui est le fun aussi, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est les détails, justement, tu sais, puis parce que je l'avais rencontré à l'aérospatiale, puis c'est comme ça que la mémoire fonctionne.
Exactement.
C'est un petit bout de quelque chose, tu sais, c'est jamais l'image d'ensemble comme dans les films où la fille se rappelle qu'elle a embrassé le gars, mais elle est en dehors d'elle-même. C'est pas faire des petites choses comme ça qu'elle approche.
C'est ça, une petite cellule de souvenirs qui, quand on la regarde, tout d'un coup, on a l'impression qu'on pourrait voir le reste. Ouais. Je pense que c'est à partir de ça qu'on se crée une histoire, puis on se crée justement les espèces de ramifications qui ramènent aux souvenirs, justement. Donc, à voir jusqu'au 12 février. Sinon, dans la petite salle, Catherine Bonnemère qui nous propose Circuito intérieur. C'est dans le cadre de résidence qu'elle a fait au Mexique, à Mexico plus précisément, en 2010-2011. Donc, c'est un travail photographique, encore une fois, qui est un peu déstabilisant quand tu arrives. Tu as l'impression que c'est 8 tableaux. Sensiblement pareil.
Presque pareil, c'est ça.
Donc, une série d'images qui a été prise à partir d'une avenue, une très longue avenue au Mexique de 42 kilomètres. Donc, c'est sur le terre-plein central. Et elle a pris toujours la même composition. Donc, c'est très, ça nous semble du moins d'une symétrie parfaite quand on est reculé. Donc, c'est toujours le terre-plein au centre avec l'arbre, puis en arrière-plan et sur les côtés, donc les deux voies routières donc, qui vient créer justement cet effet de symétrie-là. Sauf chose étrange, c'est un circuit routier très populaire, très important au Mexique, mais il n'y a aucune voiture sur les photos. Ça, hein? Puis, ben, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça a été retravaillé? Est-ce que c'est normal? Puis, finalement, quand tu te rapproches, ben, tu te rends compte, c'est sûr que ça a été retravaillé. Donc, elle joue beaucoup.
Parce qu'il y a un aspect vraiment trop étrange.
Trop étrange, trop régulier. Puis, malgré tout, c'est pas une symétrie miroir parfaite, puisque quand on s'approche, on voit que, malgré le fait qu'on semble que ça semble être une symétrie, ça semble être vraiment deux côtés identiques, mais on remarque les petites différences. Puis, les univers aussi, malgré tout, changent. Donc, ça finit par être un jeu d'images. On cherche l'erreur, on regarde comment elle a pu faire. On devient curieux, finalement, quand on se rapproche du détail pour voir comment c'est fait. Donc, ça demeure quand même assez intéressant, beaucoup intriguant au début, surtout par l'aspect qui semblait être identique.
Mais
quand
c'est
on
intéressant
dans la salle,
ça,
là.
Par exemple, parce que quand on est sur la route, je veux dire, c'est le décor change, mais la route est la même, notre position par rapport à la route est la même. Tu sais, je trouve que c'est comme un reflet de la monotonie
Exactement.
Du fait d'être en voiture pendant ces 42 km. C'est pas énorme, mais c'est assez pour que ça prenne quoi, 15-20 minutes peut-être à faire. Là.
Au moins, oui, effectivement. Puis on s'attend aussi, comme il s'agit d'une autoroute, on s'attend aussi, on est au Mexique, à Mexico qui plus est, on s'attend vraiment à voir des gens, on s'attend à voir une espèce de fréquentation assez importante de cette route-là. Puis finalement, c'est ça, il y a ça aussi qui devient comme un peu inquiétant.
Oui, c'est sacré un malaise.
Oui, hein? Puis c'est en plein jour, c'est pas des photos de nuit. Donc ça contribue à l'espèce d'aspect justement intriguant puis qui aiguise la curiosité finalement pour aller voir plus loin, de plus près du moins. Puis finalement, qui devient très intéressant. Moi, j'ai été surprise, puis vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette exposition-là. Puis étonnamment, normalement, c'est pas nécessairement les expositions que je préfère en photo, mais là, ça, je pense que c'est vraiment venu chercher quelque chose qui m'a surpris. Puis ça vaut la peine d'aller voir aussi sur les lieux jusqu'au 12 février.
Mais voilà, donc Georgia Volpe, Catherine Bodnar, deux expositions qui s'apprivoisent. Donc on a une réaction, mais on prend le temps de regarder, puis ça va nous amener plus
loin.
C'est
ça qui vaut la peine d'aller plus loin, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qui... Les deux sont très réussis, finalement.
Puis, parlant d'aller plus loin, t'es allée plus loin que Méduse aussi. Hein?
Donc, j'ai profité du fait que, en fait, dans le réseau des bibliothèques de la ville, il y a parfois des expositions qui sont proposées. À la bibliothèque du Collège des Jésuites sur le boulevard René-Lévesque, donc, on présente jusqu'au 14 mars l'exposition Les Enneigés de Marie-André Gilbert. Et Marie-André Gilbert, qui est surtout connue pour sa sérigraphie, qui est connue aussi pour ses textes et ses présentations théâtrales. Donc, elle présente une série de portraits sérigraphiés qu'elle a fait, en fait, lors de son séjour l'année dernière, donc au mois de février l'an dernier, donc un an jour pour jour, dans un centre de personnes âgées atteintes d'Alzheimer.
OK.
Donc, il y a ça d'intéressant, puis c'est drôle d'avoir parlé de Georgia Volpe juste avant.
Donc, un séjour, elle est allée là, elle a demandé à pouvoir habiter là pendant un certain temps pour rencontrer les gens.
C'est ça, pendant un mois, elle a fait des visites régulières, peut-être 3-4 fois par semaine, là, je ne me rappelle pas.
Okay, elle n'habitait pas là.
Non, elle n'habitait pas là. C'est à Québec, c'est un centre à Québec. Donc, elle se déplaçait à tous les jours pour, en fait, observer, dessiner, écrire, en fait, vraiment là, tout noter dans un petit cahier ce qu'elle pouvait remarquer, puis en même temps, ben faire connaissance avec ces gens-là, puis s'y attacher, bien évidemment.
Oui, donc, c'est assez un mois pour ça. Là.
Exactement, puis on s'entend que c'est pas des centres qui sont hyper fréquentés, là, c'est quand même restreint en termes de membres de personnel, tout comme de personnes qui y résident. Et donc, elle propose une série de portraits d'hommes et de femmes qui habitent justement ce centre-là. Puis ce qui est le fun, ben d'abord, visuellement, c'est super intéressant, c'est très beau, c'est tout en douceur, donc elle travaille beaucoup, c'est une sorte de superposition, entre autres, de couleurs, de motifs, mais de textures aussi. Elle travaille, en fait, elle conjugue à la fois la technique de sérigraphie, la technique de gaufrage, donc okay. ce qui donne une espèce d'embossure sur le papier. Puis, elle travaille aussi une technique de dessin avec du graphite, donc du graphite qui s'estompe et qui donne une autre texture puis une autre coloration. Donc, déjà, visuellement, c'est très intéressant. Et son dessin est toujours très fin. C'est quelques traits qui nous révèlent quelques détails physionomiques, disons, du personnage, mais qui ne nous le révèlent jamais totalement. Donc, c'est un dessin tout en finesse. Elle n'est pas dans le détail, dans la ressemblance absolue non plus. C'est un dessin qui est très esquissé.
Oui, mais j'aime ça parce que tu dis que c'était dans un foyer de personnes atteintes d'Alzheimer. Exactement. Fait qu'il y a comme toute l'idée de la mémoire qui oublie, puis tout ça. Et comme le dessin ne rentre pas dans le détail.
C'est ça, on ne rentre pas dans le détail. Puis c'est l'idée aussi de jamais, je ne sais pas si c'était dans ses intentions lorsqu'elle elle a fait sa résidence, mais c'était toujours un dessin sur place. C'est pas d'après souvenir, elle ne partait pas de photographie. Donc, c'était toujours l'idée d'esquisser rapidement, donc de regarder et d'y aller le plus rapidement possible. Donc, un peu l'idée justement de se souvenir mémoire court terme.
Ben oui, c'est ça.
Donc, son travail est intéressant. Puis ce qui va au-delà de l'image, que je trouve très intéressant, c'est les titres qu'elle y attribue.
Okay.
Ces titres nous révèlent un peu une partie de la personnalité du personnage, parce que ça demeure ça pour nous. Des titres comme, par exemple, La fébrilité de Janelle, La soirée dansante de Janine, Le salon de Thérèse, Le quiz, Le grand quiz de Madame Clémence, ou encore La partie de poche de Madame Hélène. Donc, c'est quand même assez rigolo. Puis,
c'est touchant.
C'est
aussi,
touchant. Là. C'est justement, on a l'impression que c'est des choses qui allument ces personnes-là. Puis, ça nous permet de continuer à nous imaginer le reste de la scène. On a tous, peut-être quelqu'un qu'on connaît proche de nous qui soit est atteint ou soit qui, avec la vieillesse...
Finit par perdre la mémoire.
Exactement. Ou n'importe quelle capacité. Donc, on se dit, il y a quelque chose d'attachant. On ne les connaît pas. On ne les a pas réellement vus, mais on s'attache comme un peu à ces dessins-là. Puis, en plus de toute cette esthétique très en douceur, délicate, ça ne peut qu'être réussi, finalement, comme projet.
Voilà. C'est présenté jusqu'à quand?
Jusqu'au 14 mars.
Dominique Savoie, merci beaucoup.
Merci à toi.
On se revoit dans environ un mois. Nous, on s'en va en pause. On écoute Odun NK sur les ondes de CKRL. Thank you. Voilà, c'était un extrait de l'album Nox d'Apollon, une suggestion de Simon Roy que vous pouvez retrouver les liens, en fait, pas Simon Roy, sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, si vous avez envie, il faut toujours venir aimer la page de l'aérospatiale. On vous tient au courant des événements, des nouvelles parutions, etc. Bref, de tout ce qui se passe en art visuel. De notre côté, on se tourne vers le centre-ville. On s'en va à la galerie Materia pour discuter de l'exposition François Houdé, Mémoire Vive, donc une exposition à saveur rétrospective dont le commissariat a été effectué avec Carole Charrette. Bonjour.
Bonsoir.
Ça va, oui, bonsoir. Hein, à cette heure-là, on peut dire bonsoir. Ça va bien?
Très bien, merci.
Et cette exposition-là, c'est la première exposition rétrospective depuis le décès de François Houdé, si je comprends bien.
Exactement.
Qui est décédé en 1993.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui fait que ça a été si long hein, avant qu'il y ait un événement comme ça?
En fait, je dirais c'est que les œuvres de François ont été acquises par des collectionneurs ou des musées presque immédiatement. Chaque fois qu'il terminait une série, à ce moment-là, les œuvres étaient exposées, principalement à la Galerie Elena Lee à Montréal, et il trouvait acquéreur tout de suite. Ah, alors, il a fallu un certain temps avant de décider de mettre de l'avant ce projet-là. Il fallait une salle aussi qui allait être en mesure d'accueillir suffisamment de pièces, parce qu'il y a quand même, malgré le fait qu'il a produit pendant à peu près une douzaine d'années, il a produit quand même beaucoup de choses très diversifiées, et ça nous prenait une salle assez d'envergure. Oui. Donc, comme on sait qu'habituellement, lorsqu'on prépare une exposition, il faut aller quand même assez longtemps d'avance. C'est un peu ça. Puis ensuite, de faire la recherche pour être en mesure d'identifier les propriétaires des œuvres.
Ah oui, ça doit être un travail assez ardu.
Ça a pris quelques mois, en effet. Mais c'est ça. Puis aussi, avec la collaboration du Club des collectionneurs en arts visuels, ça faisait plusieurs années que Marc Bellemare, le fondateur, nous disait « Quand est-ce que vous allez faire quelque chose sur François Houdé? » Parce qu'il connaissait son travail et il réalisait bien qu'il était peu connu dans sa ville natale.
Ben oui, pourtant, c'est un artiste qui était connu à l'international. Là. Qu'est-ce qui fait comme ça qu'il y a cette disparité-là, en fait?
En fait, François a travaillé beaucoup à Montréal et en Ontario et aux États-Unis. Il a fait sa formation en Ontario et aux États-Unis et ensuite il a travaillé là-bas avant de revenir au Québec dans les années 80 où là, il a travaillé à la mise en place de l'école-atelier Espace Vert qui est la seule école, en fait, qui présente un programme collégial en technique de verre. Et pendant cette période-là, évidemment, il a délaissé un peu sa production personnelle.
Oui, ça, c'est un cartel, d'ailleurs, qui nous en parle.
Exactement, exactement. Puis, dans le fond, François a été très novateur dans son approche.
Oui, parce que c'est carrément anti-vase, anti-assiette décorative. Là, ce qu'on voit, là, il s'est amusé à déconstruire toutes les conceptions qu'on a de l'art verrier.
Exactement. Justement, lorsque tu parles de ça, des traditions, des conventions de l'art verrier, c'est l'approche que François Houdé a toujours mis de l'avant. Dès le départ, il s'est vraiment évertué à déconstruire, à repousser au maximum les limites du médium qui était le verre, mais aussi non seulement à maîtriser les techniques, mais à les dépasser. C'est ce qui fait que c'est un peu déconcertant. Là. Puis dès le départ aussi, quand chaque fois qu'il présentait une nouvelle série, les gens étaient un peu estomaqués puis ils disaient ça n'a rien à voir avec ce qu'on est habitué de voir.
Ben oui, c'est ça, parce que c'est une démarche qui est vraiment très, très près des arts visuels au niveau de la réflexion puis de la conception. Pas de la conception manuelle, là, mais bien...
Oui. François avait en effet une conception beaucoup plus artistique du verre, beaucoup plus près de la sculpture que de l'art décoratif. Et surtout, il remettait en question la notion du bel objet.
Oui, c'est
malgré
ça.
Malgré le fait qu'il y avait une approche qu'on pouvait qualifier d'artisan ou très près du design, dans le sens qu'il explorait au maximum toutes les propriétés du matériau, mais dans sa vision, avant de commencer une série, il y avait vraiment une conception, là, une réflexion très profonde sur ses intentions et ce qu'il allait faire avec la matière.
Bon, on le voit notamment avec les séries dans l'exposition. Je pense à Ming, la série où on voit beaucoup le cheval, mais pas juxtaposition, mais superposition d'épaisseur avec des distances. Tout ça, il utilise le verre cassé là, également dans son travail.
Oui, oui. François a commencé, dans le fond, avec la série des bols brisés.
Ouais.
Où ça, c'était majeur, c'est-à-dire qu'il a fait deux autres séries avant. Là,
c'est qu'il y a les bols pliés, je crois, c'est ça, plus ancienne.
Exactement. Les bols pliés, c'était la série qu'il a fait pendant qu'il était aux études à Sheridan College, en Ontario. Et là, il travaillait la fluidité du verre.
Ouais.
Donc, il essayait de présenter le verre en fusion, le verre qui pouvait être souple, mais à l'état froid, dans le fond. Alors, c'est pour ça qu'il a réussi, avec ses bols pliés, à créer aussi une espèce de... Lorsqu'on regarde les bols qui sont ensemble, on les appelait beaucoup aussi les bols lovés, parce qu'ils étaient souvent présentés par deux. Donc, il y avait une certaine communication entre ces vases-là. Et là, c'était sa première exploration du médium. Après, il a fait les sphères... lorsqu'il était à Seattle, et là, il a exploré vraiment la matité et le travail au jet de sable pour perforer le verre. Il faisait, dans le fond, les vases, ouais, un peu. Ben, là, c'est les bols brisés. Mais les sphères, c'est vraiment des vases, c'est des vases avec lesquels il y a... finalement, fermer l'ouverture.
Oui, mais celle avec comme une couleur un peu bronze, là, à l'intérieur, c'est ça?
Non, je me trompe.
Okay. Bon, c'est correct, je vous appelle non plus.
C'est pas grave. Mais c'est ça. Donc, avec les sphères, il amenait une autre dimension plus sculpturale. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il travaillait beaucoup à l'encontre de la tradition du verre. Et il y a quelqu'un, Julia Kruger, entre autres, a dit qu'il était indiscipliné. Et c'était un peu la nature de sa démarche qu'on a retrouvée dans toutes les séries qu'il a faites. Il a fait la série des épaves, et là, c'était, si on prend le mot anglais « vessel », qui peut autant être un vase qu'un vaisseau. Et là, c'est vraiment comme la structure du bateau, mais aussi comme l'ossature du vase. Et là, son intention, c'était de présenter la technique du moulage. Donc, il essayait une autre technique. Puis ensuite, il y a eu les bols brisés.
Ou là, carrément, il n'hésite pas, là, le métal, le ruban,
oui.
Mais il faut quand même une maîtrise de son art qui est assez incroyable là, pour être capable de faire dans le but que ça ait l'air brisé.
Oui, c'était intentionnel. En fait, quand il a commencé cette série-là, après avoir fait des bols parfaits, vraiment maîtrisé la technique, il disait qu'il était un peu, comment dire, pas fâché, mais un peu tanné que son travail, finalement, à cause d'une égratignure, à cause d'un bris, soit dans le processus de refroidissement, son vase parfait devenait inutile. Alors, il s'est dit, pourquoi est-ce que je ne partirais pas de l'endroit où il faut toujours que je m'arrête pour commencer mon travail, puis ma recherche, mes études? Alors, c'est à ce moment-là qu'il a fait des vases, il a fait environ une vingtaine de vases, et il les a consciemment... briser, découper pour les refusionner, soit en intégrant des nouveaux matériaux. Il faut se mettre dans l'esprit aussi que c'était au début des années 80.
Oui.
Donc, d'intégrer des matériaux de recyclage, ça n'était pas courant à l'époque.
Surtout pas dans ce domaine-là. On le voyait un peu, là, mais
exactement.
Pas...
Exactement. D'ailleurs, il a fait une présentation à Sheridan College à cette époque-là, et les étudiants ont été estomaqués. Ils ont dit que c'est complètement à l'inverse de ce qui nous est enseigné. Mais il a vraiment ouvert des portes grâce à ça.
Mais il n'a pas hésité, là, je reviens encore à mon idée de Ming ou encore de Ming 10 là, qu'on voit dans la fenêtre. Il n'y a vraiment pas, j'imagine qu'il récupérait des verres qui étaient déjà cassés, mais il devait les recasser également pour donner ses formes. Puis...
De dire qu'il récupérait des verres déjà cassés, sans doute. Par contre, c'est surtout des fenêtres qui étaient en récupération, qui avaient été enlevées soit lors de rénovation. Il a travaillé beaucoup avec les vitraux, entre autres, dans le quartier sur le plateau, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des rénovations et qui ont mis en chemin leurs vitraux. Et François a récupéré ces fenêtres-là, mais aussi des fenêtres industrielles. Et l'idée des chevaux, c'est que François a des antécédents en anthropologie et en archéologie. Donc, il recherchait l'image ou le passage du temps et l'histoire. Il voulait vraiment intégrer l'histoire, les sociétés. Alors, le cheval, dans le fond, c'est une métaphore qui sert à marquer différentes étapes, différentes histoires à travers le monde. Et pour justement transposer une fenêtre qu'on ne voit habituellement jamais, qui est en 2D, la mettre en multiples plans et qu'elle devienne un objet que l'on peut observer.
Puis qu'elle se déploie dans l'espace aussi, au lieu d'être juste fenêtre sur autre chose.
Exactement.
Eh bien, Carole Charrette, oui, OK, j'ai eu l'impression de vous débaptiser. Merci beaucoup pour ce travail de commissariat sur l'exposition François Audet. J'imagine qu'elle va se promener un peu.
On ne sait pas si elle va se promener, mais elle est là jusqu'au 11 mars. Puis je vous invite à venir à la conférence le dimanche 19 février. C'est sur réservation, donc à 13h pour le membre de Materia et ouvert au public et à 16h pour les membres du club des collectionneurs en arts visuels. Pardon. Merci beaucoup.
Bien, merci beaucoup. Donc, François Audet, Mémoire vive, qui est présenté à Materia jusqu'au 11 mars. On s'en va en courte pause audio. On écoute Sotia Snake sur les ondes de CKRL. C'était un court extrait de Sotia Snake tiré de l'album Nox de l'artiste Apollon, une suggestion de Simon Roy. Vous pouvez trouver les liens pour télécharger sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, vous pourrez trouver les liens pour la revue de presse et l'émission en balado-diffusion. Avant que l'émission se termine, il y a tellement de choses, en fait, qui se passent cette semaine. C'est le mois multi. Tout au long du mois de février, on en a discuté la semaine dernière. Cette semaine, les spectacles La jeune fille et la mort, qui est présenté jeudi, vendredi et samedi à 19h30. C'est le bureau de l'APA. C'est une pièce de théâtre multidisciplinaire. C'est à la salle multi. Également, jeudi, vendredi et samedi à 21h et 22h. C'est In Mass, Chris and Cope de Chris Verdonk. Des installations, performances qui sont présentés au studio d'essai. Aussi, ben après, pourquoi pas, les cabarets audio à 23h. Donc, le 9, c'est Hélène Provost. Le 10, c'est Michel Plamondon. Et le 11, Cathy Kennedy et Magali Babin. Également, il se passe autre chose que le mois multi. Jeudi 9 février à 17h, c'est l'ouverture de la résidence de Takao Minami. Une résidence qui s'appelle Mouvement. C'est à la Chambre Blanche également. Vendredi à 17h, vernissage de l'exposition Mesdames Jacques Lompré qui est présentée à Dizara. Un autre vernissage, bien entendu, c'est celui de l'exposition Loop à l'établi, donc exposition du collectif. Et finalement, vernissage de Michel Labbé qui présente Oxymore à la Galerie La Certe. Sur ce, c'est la fin de l'émission. Je remercie Jacques Gignac et tous mes collaborateurs. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous laisse entre bonnes mains avec Gilles Chaumet et Folk d'Amérique. Au revoir.